VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce jeudi 31 mai 2018. Au Burundi, la victoire du oui au référendum constitutionnel est confirmée. Au Tchad, de nouvelles négociations pour tenter de mettre fin à la grève illimitée des fonctionnaires.
Le gouvernement invite les travailleurs et les travailleuses de la plateforme syndicale revendicative à la compréhension et à la sagesse en vue d'un retour à la normale.
Corée du Nord, le secrétaire d'État américain salue des pourparlers substantiels avec le bras droit de Kim Jong-un. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. La large victoire du oui est confirmée au Burundi. La Cour constitutionnelle du pays a validé aujourd'hui les résultats du référendum du 17 mai dernier sur une réforme de la Constitution. Une coalition d'opposition conteste l'issue de cette consultation populaire. De Bujumbura, le compte-rendu de notre correspondant Christophe Kurunziza.
Très peu de Burundais de la capitale savaient que les 7 membres de la Cour constitutionnelle allaient valider ou non les résultats du référendum du 17 mai dernier. Ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes quand le président de la Cour constitutionnelle, Charles Ndagijimana, validait les résultats du référendum du 17 mai 2018 sur la radio du parti CNDD-FDD, Rema FM. Selon lui, 4 586 730 Burundais ont voté oui pour le changement constitutionnel. Aucune irrégularité n'a été constatée sur tout l'étendue de la République, selon le président de cette cour, malgré les intimidations remarquées par certaines formations de l'opposition qui avaient appelé à voter les non. 880 000 habitants ont voté non, soit 19,35% selon le président de la Cour constitutionnelle. Charles Ndagijimana a jugé non fondée la plainte de la coalition affirmant que plus de 96,19% des électeurs burundais ont participé au vote. Il a indiqué également que ces résultats définitifs seront publiés dans le bulletin officiel La République du Burundi. Toutes les formations politiques de l'opposition de l'intérieur et de l'extérieur du pays affirment que la Cour constitutionnelle, tout comme la Commission nationale électorale indépendante, reste des outils au service du parti au pouvoir. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En République centrafricaine, 9 organisations humanitaires ont été pillées au mois de mai à Bambari, où des violences intercommunautaires ont secoué la ville ces dernières semaines. D'après l'ONU, 9 personnes ont perdu la vie dans ces affrontements, dont un membre local d'une ONG et un infirmier. Des tirs ont de nouveau été entendus dans la ville hier. Des groupes armés et des milices s'affrontent pour le contrôle des ressources dans ce pays de 4,5 millions d'habitants, classés parmi les plus pauvres au monde, mais riches en diamants, or et uranium. Au Tchad, le bras de fer entre le gouvernement et les fonctionnaires en grève se poursuit. Les syndicats des services publics refusent catégoriquement une compensation nature proposée par le gouvernement pour remplacer les coupes salariales. Écoutez Madeleine Alinguet, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, après une réunion ce jeudi.
La plateforme syndicale revendicative a annoncé que seul le rétablissement et le paiement du salaire intégral des agents de l'État étaient conditions à la poursuite des négociations. Le gouvernement a exprimé sa surprise et sa déception face à cette volte-face de la plateforme syndicale revendicative, avec en plus un appel à la grève lancé le 26 mai dernier. Le gouvernement a réitéré ses explications sur la grave crise de trésorerie, en plus des risques d'une année blanche dans les établissements scolaires publics et le drame occasionné par la grève dans le service de santé. Cette rencontre qualifiée de constructive a permis de lever les équivoques et d'échanger sur la grave situation financière de notre pays. En cela et en toute responsabilité, la plateforme syndicale revendicative a de nouveau sollicité de consulter sa base afin de répondre à la demande de levée de grève formulée par le gouvernement. Le gouvernement invite les travailleurs et les travailleuses de la plateforme syndicale revendicative à la compréhension et à la sagesse en vue d'un retour à la normale.
Quant aux avocats, huissiers et notaires tchadiens, ils se sont joints ce jeudi aux magistrats en grève dans le pays pour soutenir un avocat pris à partie par des forces de l'ordre. Le 22 mai dernier, maître Doumra Manassé s'était dit victime de tirs par des gendarmes sur sa voiture alors qu'il transportait trois de ses clients relaxés qui ont ensuite été bastonnés et emmenés dans les locaux de la gendarmerie de Douba. Une équipe du ministère de la Justice est arrivée dans cette ville en début de semaine pour faire la lumière sur cet incident. Au Sénégal, le procès en appel du maire de Dakar s'ouvrira le 5 juin prochain. Khalifa Sall a été condamné le 30 mars dernier à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture. Cette condamnation l'écarte pour le moment de la course à la présidentielle de février 2019. Dissident du Parti socialiste et de la majorité présidentielle, Khalifa Sall affirme que les poursuites judiciaires à son encontre sont instrumentalisées par le président Macky Sall pour l'empêcher de se présenter à ce scrutin. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga ont demandé pardon aujourd'hui pour les mots « assassin » échangés lors des élections de l'an dernier. Un geste symbolique pour appuyer leur promesse d'œuvrer pour la réconciliation dans le pays. Davantage avec Yacouba Ouédraogo.
Nous avons fait campagne l'un contre l'autre, nous avons dit des choses méchantes l'un envers l'autre et aujourd'hui je demande pardon et souhaite présenter mes excuses, a déclaré le président Uhuru Kenyatta. Pour sa part, Raila Odinga a renchéri, je cite, « Plus jamais un Kenyan ne mourra à cause d'une élection », en référence au mois de violence ayant accompagné le scrutin de 2017 et qui ont fait au moins 100 victimes. Les deux hommes qui n'ont cessé de s'appeler « mon frère » étaient accompagnés du vice-président William Ruto et de Kalonzo Musyoka, colistier de Raila Odinga. Ils ont eux aussi présenté des excuses et échangé des accolades. Le président de la Cour suprême, David Maraga, était présent, lui qui a pourtant été vilipendé par le camp Kenyatta après l'annulation du premier tour de la présidentielle pour irrégularité. Par contre, les deux plus importants alliés de Raila Odinga, Musalia Mudavadi et Moses Wetangula, n'ont pas assisté à la cérémonie. C'est la deuxième fois que le président Uhuru Kenyatta et Raila Odinga se retrouvent après leur rencontre de mars dernier.
Une entreprise sud-africaine a demandé ce jeudi à la Cour constitutionnelle de confirmer le licenciement de 9 de ses employés sous prétexte qu'ils avaient entonné un chant de la lutte anti-apartheid à connotation raciale. D'après la société de collecte de déchets Duncan Mec, les employés avaient entamé une grève illégale et entonné la chanson « Monte sur le toit et crie que ma mère se réjouit qu'on frappe les beurs, les descendants des colons hollandais ». Le syndicat Numza, qui représente les employés licenciés dans cette affaire, a jugé ridicule l'argument avancé par l'employeur. En Ouganda, les utilisateurs de WhatsApp, Facebook, Skype et autres réseaux sociaux devront à partir de juillet s'acquitter d'une taxe quotidienne en vertu d'une nouvelle législation. Des défenseurs des droits de l'homme y voient une tentative d'étouffer la liberté d'expression. Cette loi, adoptée par le Parlement dans la soirée d'hier, impose une taxe de 200 shillings par jour à ceux qui recourent aux services qualifiés d'excessifs de ces réseaux. Mais le texte ne précise pas selon quelle modalité, la taxe sera appliquée et collectée dans la pratique. À Madagascar, le ministre de la Défense, Beni Xavier Rassolofin-Iranin, menace de faire intervenir les forces de l'ordre si le gouvernement et l'opposition ne parviennent pas à trouver une solution rapide à la crise politique qui les oppose. Cela devrait être fait dans les délais imposés par la Haute Cour constitutionnelle, prévient-il dans un communiqué. Le 25 mai dernier, la Haute Cour a donné 7 jours au président Ir Rajanmampianin pour nommer un premier ministre de consensus. Mais pour l'instant, les négociations entre le gouvernement et l'opposition exigent depuis plus d'un mois dans la rue. La démission du président sont au point mort.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le dialogue entre Washington et Pyongyang est bien relancé. Le chef de la diplomatie américaine a salué ce jeudi des discussions substantielles avec le bras droit de Kim Jong-un en vue d'un sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen. C'est ce qu'a écrit Mike Pompeo sur Twitter après la fin de la réunion à New York avec le général Kim Jong-chol qui a duré près de 2h30. Abdourahman Dia.
Les grandes manœuvres diplomatiques vont bon train à 12 jours de l'éventuel tête-à-tête inédit entre un président américain en exercice et un numéro 1 nord-coréen le 12 juin à Singapour. Pour sa part, le président américain a déclaré ce matin qu'il avait hâte de voir ce qu'il y a dans la lettre de Kim Jong-un. Il a précisé que les émissaires nord-coréens actuellement à New York se rendront probablement demain à Washington. Les rencontres ont repris ce jeudi matin entre le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le bras droit de Kim Jong-un, le général Kim Jong-chol, qui est le plus haut dirigeant nord-coréen à fouler le sol des États-Unis depuis 18 ans. Les deux hommes se sont déjà vus à deux reprises à Pyongyang lors des voyages de Mike Pompeo ce printemps. Hier, ils ont échangé une longue poignée de main avant d'entamer leur entretien sans répondre aux questions des médias. Mais Moscou s'est immiscé dans le processus car Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, s'est rendu à Pyongyang et a invité Kim Jong-un en Russie.
Le célèbre opposant émirati Ahmed Mansour a été condamné à 10 ans de prison pour avoir critiqué le pouvoir et terni l'image de son pays sur les réseaux sociaux. Selon Amnesty International, M. Mansour devra également s'acquitter d'une amende d'1 million de dirhams, soit 235 000 euros. Le tribunal qui a prononcé cette condamnation à Abu Dhabi a par ailleurs ordonné qu'il soit placé sous surveillance pendant 3 ans après sa libération. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La boîte prévoit de lever 50 milliards de francs CFA chaque année pour financer notamment au Togo des projets sur le financement climatique et promouvoir les énergies renouvelables. En mars dernier, la Banque de financement du développement dans l'espace UEMOA avait annoncé avoir franchi la barre des 5 000 milliards de financement au profit des pays de la zone d'intégration. Les questions environnementales sont au centre des opérations de la boîte depuis 2003. Le Gabon et la FAO veulent promouvoir le secteur de la pêche et l'élevage du poisson. Le gouvernement a aussi sollicité un appui de la FAO sur le renforcement des capacités des populations qui vivent des activités de la pêche artisanale. Les deux parties ont enfin convenu de la mise en place d'un cadre de travail pour définir la feuille de route des appuis prioritaires identifiés et l'organisation d'un groupe thématique sur la pêche et l'élevage du poisson. Libreville a exprimé la nécessité de mener des actions à l'endroit des populations locales et des infrastructures de débarquement des produits de la pêche. La chancelière allemande Angela Merkel a jugé illégales les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium décidées par les États-Unis. Première économie de l'Union européenne, l'Allemagne est particulièrement vulnérable en raison de sa forte dépendance à l'égard de l'industrie automobile qui est aussi dans le collimateur de Donald Trump. Les automobiles et les pièces automobiles ont représenté plus d'un quart des 130,3 milliards de dollars d'exportation vers les États-Unis en 2017. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a d'ores et déjà fait savoir jeudi après-midi que l'Union européenne allait annoncer dans les prochaines heures des contre-mesures.
Il est l'heure maintenant d'un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Évidemment, la nouvelle du jour, tout le monde est pris au dépourvu. Zinedine Zidane quitte le Real Madrid.
Et oui, Zinedine Zidane a annoncé à la surprise générale qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real Madrid 5 jours seulement après sa 3e victoire consécutive en Ligue des Champions, qu'il a définitivement fait entrer dans l'histoire du football. Écoutons le désormais ex-entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. En plus de la Liga décrochée en 2017, ZZ a remporté toutes les 8 finales qu'il a disputées en tant qu'entraîneur, dont 3 Ligues des Champions de suite, un palmarès hors norme, et ce, moins de 3 ans seulement après le début de sa première expérience comme coach principal en janvier 2016. Pourquoi alors partir maintenant? Zizou s'explique. C'était donc Zinedine Zidane, le désormais ex-entraîneur du Real Madrid.
Et puis, bonne nouvelle pour le Pérou, Guerrero va pouvoir disputer le Mondial.
Le tribunal fédéral suisse, devant lequel le capitaine du Pérou a fait appel de sa suspension pour dopage, a accordé l'effet suspensif à son recours contre la décision rendue par le tribunal arbitral du sport. Le tribunal fédéral suisse, qui n'a pas encore reçu les motivations de la décision du TAS, jugera sur le fond après le mondial. Le Pérou, versé dans le groupe C, affrontera la France, le Danemark et l'Australie. D'abord suspendu 6 mois pour un contrôle positif à la cocaïne, Guerrero avait fait appel de cette décision demandant son annulation. Le 14 mai, le TASS avait décidé de porter sa suspension de 6 à 14 mois, privant ainsi le joueur du mondial.
Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. En République démocratique du Congo, beaucoup de candidats de l'opposition veulent se lancer dans la course présidentielle du 23 décembre prochain. Mais quelques partis de cette même opposition préparent une candidature unique et appellent à un regroupement. Eddy Sango a recueilli la réaction du candidat du parti Congo Nabisso, Freddy Matungulu.
Pour le moment, chaque regroupement a son candidat, tout à fait normal. Mais comme vous le savez, nous sommes en train de travailler ensemble pour trouver la méthodologie et les moyens qui nous permettraient d'arriver à la présentation d'une candidature commune de l'opposition à la prochaine présidentielle. Nous avons mis en place une équipe technique qui a fini la préparation d'une charte devant définir un peu nos obligations dans le cadre de ce processus. Et je crois que quand je serai de retour tout à l'heure au Congo, nous allons continuer le travail technique et on aura des réunions au niveau des chefs de regroupement politique pour faire aboutir ce processus. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à mettre en place cette candidature commune d'opposition pour la prochaine présidentielle.
Et vous-même, vous êtes candidat pour votre parti, le Congo Nabisso, et puis pour votre plateforme.
Tout à fait. Mon parti, comme vous le savez, c'est Congo Nabisso, CNB, et le regroupement politique que nous avons mis en place s'appelle CIENCO, la synergie électorale Notre Congo. Et nous allons partir comme représentants.
Vous parlez de l'ensemble de l'opposition, mais on vous voit plutôt aller avec l'UNC et le MLC.
Mais vous vous rappellerez que lorsque les différents groupes se sont retrouvés la dernière fois, il y avait des représentants évidemment de l'Union pour la Nation, du MLC, de Congo Nabisso et CIENCO, mais également ceux de l'UDPS et d'ensemble. Je crois que pour le moment, dans cette vision, la mise en place d'une candidature commune de l'opposition, nous sommes en train de travailler ensemble.
On entend de plus en plus de voix qui s'élèvent au sein de la majorité présidentielle disant que Kabila devrait briguer un autre mandat. Il se base sur le fait que certains fondamentaux de la Constitution ont été touchés par des réformes. Comment réagissez-vous?
Bon, ben ça c'est une démarche qui n'a aucun fondement. C'est ce que nous disons. Nous travaillons sur la base de la Constitution comme nous la connaissons, amendée bien entendu en 2011, mais qui indique clairement que le président de la République fait un mandat qui peut être renouvelé une seule fois et qu'au-delà, on n'est plus éligible. C'est le cas de Kabila. Il a terminé son second et dernier mandat et en ce qui nous concerne, il est peut-être question qu'il puisse se représenter.
On est pratiquement au mois de juin, ce qui signifie dépôt de candidature pour la députation et en juillet pour la présidentielle. Pensez-vous que réellement on aura des élections le 23 décembre?
Cette fois-ci, nous avons un calendrier électoral. Nous n'avons pas besoin d'attendre décembre pour savoir si oui ou non, on aura cette élection.
Freddy Matungulu, candidat à la présidentielle du parti Congo Nabisso.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Que peut apprendre le Burkina Faso du système de dialogue politique au Danemark? Une délégation de représentants des partis politiques au Parlement a séjourné à Copenhague du 12 au 19 mai. Ce matin, ils étaient au palais de Kossiam pour remettre le rapport de leur constat au président Roch Kabore. L'opposant et ancien ministre Ablasé Ouedraogo faisait partie de la délégation, joint par Bagassi Koura. Il revient d'abord sur les raisons de leur voyage au Danemark.
Si nous avons eu l'opportunité donc d'aller à Copenhague, c'était tout simplement pour vivre avec les Danois le déroulement du processus démocratique dans leur pays. Et nous avons beaucoup appris. Et très simplement, nous sommes revenus avec la conviction, et c'est eux qui nous l'ont dit, La démocratie, c'est l'art de se mettre d'accord sur les désaccords. C'est tout un programme. Et nous avons appris aussi que pour qu'il y ait démocratie, il faut de la stabilité. Et pour qu'il y ait de la stabilité, il faut qu'il y ait du dialogue. Et c'est par le dialogue, par la négociation, par le consensus qu'on se met d'accord sur l'essentiel des programmes, si bien que même en cas d'alternance, même en cas de changement d'homme, ce qui est essentiel pour le pays demeure. Et c'est ça la stabilité. C'est ce que nous avons appris pendant notre séjour.
Alors, ce matin, un rapport a été remis au chef de l'État concernant donc ce séjour à Copenhague. Quelles peuvent être les prochaines étapes?
Je pense qu'il faut travailler. Il faut travailler à ce que le dialogue politique au Burkina Faso devienne une réalité. Il faut restaurer la confiance entre les Burkinabés. Et le chef de l'État, de par ses prérogatives constitutionnelles, étant le garant de l'unité nationale, nous l'avons rencontré donc ce matin et le chef de l'État s'est engagé à aller de l'avant. Il a indiqué sa disponibilité donc à accompagner le processus qui est, j'allais dire, lancé. Et je pense que l'étape de Copenhague aura été d'une grande utilité pour la restauration d'une confiance, la restauration d'un respect de tout au Burkina Faso.
On parle d'une première phase de 6 mois.
Et ça, c'est le programme. C'est le programme que les Danois se proposent de nous offrir pour accompagner le processus. Donc, c'est une période au cours de laquelle beaucoup d'actions aideront à développer le dialogue entre les Burkinabés. Pour la majorité des Burkinabés, la réconciliation est une impérieuse nécessité. Et de ce fait, avoir la chance d'organiser la réconciliation nationale et remettre les Burkinabés ensemble et les remettre au travail, c'est une perspective très heureuse pour notre pays.
On écoutait l'opposant et ancien ministre Ablassé Ouédraogo. Il a été joint à Ouagadougou au Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Cap sur le Mali à présent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu hier, mercredi, à Mopti dans le cadre de la visite de 48 heures qu'il a entamée mardi à Bamako. Il a eu à cette occasion une série de rencontres avec les organisations de la société civile, les leaders communautaires et la force conjointe du G5 Sahel. Compte rendu de notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
Première étape de cette visite, le guichet de la force conjointe du G5 Sahel, où le secrétaire général des Nations Unies a eu un tête-à-tête avec l'état-major. Ici, on attend beaucoup de l'ONU. Didier Dako est le commandant de la force conjointe.
Ce que nous attendons de l'ONU, c'est un peu ce que nous attendons de toute la communauté internationale, un appui. Un appui dans toutes les dimensions, que ce soit sur le plan opérationnel, que ce soit sur le plan logistique, et pour aider la force à se construire davantage au plus vite et faire face ensuite aux missions qui sont les leurs.
Cette force dont la mission première est de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière peut compter sur l'accompagnement du diplomate onusien Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
Nous ferons un plaidoyer très fort face à la communauté internationale pour que le G5 puisse disposer des ressources financières et matérielles nécessaires à son efficacité. Et nous demandons aussi à la communauté internationale un grand investissement pour le développement de la région, le développement du Sahel, parce qu'il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix.
Autre rencontre que le diplomate portugais a eue à Mopti, c'est celle avec les leaders communautaires et les organisations de la société civile. L'occasion était bonne pour la présidente de l'OCS de Mopti de dresser le tableau de la situation dans la région, Madame Diallo Tatatouri.
L'insécurité que nous vivons aujourd'hui dans notre région, c'est un cycle infernal. On le dit, sans sécurité, pas de développement, sans sécurité, pas de paix. Et nous n'avons ni la paix ni le développement dans notre région. Le développement socio-économique à l'heure actuelle est carrément freiné. Pas d'école, pas de centre de santé dans la majeure partie des zones.
Le plus haut fonctionnaire international a montré sa disponibilité à accompagner le Mali afin de trouver une solution à cette crise, une crise qui sévit dans notre pays depuis 2012. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Je voudrais profiter de cette occasion pour demander une solidarité bien plus forte à la communauté internationale. Il y a toutes les raisons pour le faire. La solidarité avec le peuple malien qui a énormément souffert, mais c'est aussi l'intérêt de tout le monde.
Cette visite à Mopti d'Antonio Guterres est un pas géant dans la quête de solutions aux difficultés dans lesquelles vivent les populations de la région. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Toujours pour aller au-delà de l'info, les États-Unis ont imposé à l'Union européenne, au Mexique et au Canada d'importantes taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. À partir de demain, vendredi, Washington met en place des tarifs de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. L'UE et le Mexique promettent dans la foulée des représailles. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris l'économiste Sylvie Matelli. Nous l'écoutons.
Je crois qu'on est toujours dans cette logique de Washington de pousser les Européens, les Canadiens, les Mexicains à aller dans la direction où souhaitent les faire aller les États-Unis. Donc ce qu'il faut en conclure, c'est que finalement, les partenariats classe traditionnelle, les ententes traditionnelles, les alliances traditionnelles n'ont pas grande de valeur pour l'administration américaine qui est aujourd'hui en place. On peut punir ses plus proches alliés, c'est pas très grave, et puis on va s'entendre avec des pays qui à la base sont considérés plutôt comme des concurrents, voire comme des menaces. Et pourquoi les États-Unis font ça? Eh bien très probablement parce qu'ils ont tiré la conclusion qu'au fond, ce sont des pays calmes, entre guillemets. C'est pas des pays qui vont imposer des rétorsions. Ce n'est pas des pays qui sont très dangereux pour les États-Unis. Donc, on tape et puis on attend de voir ce qui va se passer, mais on n'a pas trop de crainte quant à ce qui pourrait se passer en termes de rétorsions.
Est-ce que c'est une stratégie qui va payer pour Washington? Parce que le secteur de l'automobile va aussi être atteint.
Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je crois que ce n'est pas la bonne stratégie, mais quelque part, ça peut fonctionner aussi, hein, et on peut se tromper aussi. Si les Européens ne sont pas unis pour réagir, si les Européens ne se positionnent pas, si les Canadiens ou les Mexicains ne se positionnent pas et ne s'opposent pas à ces mesures, les Américains auront tout gagné en réalité. Ils auront taxé l'acier, il n'y aura aucune, donc protéger ce secteur aux États-Unis avec des conséquences qui seront relativement mineures pour leur économie. Alors encore une fois, tout est relatif, puisque si le président Trump aborde, évoque ensuite, après l'acier, la question de l'automobile, c'est parce que bien évidemment, le secteur automobile américain va souffrir de ce protectionnisme sur l'acier et que finalement, le président américain se dit « mais qu'à cela tienne ».
Est-ce que l'Union européenne a les moyens de répondre à ces mesures de Washington? Quels sont les produits américains, par exemple, qui souffriraient?
On avait parlé des Harley-Davidson et beaucoup avaient rigolé, mais au-delà de ça, il y a tout un ensemble de secteurs d'activités qui peuvent être touchés et choisis par l'économie européenne. L'Europe est le premier partenaire commercial des États-Unis et vice-versa. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Europe en dehors des pays européens en tant que tels. Donc bien évidemment, quand on a des relations commerciales aussi importantes, des mesures de protection peuvent faire du mal des deux côtés et les deux parties ont les armes pour se protéger.
L'économiste Sylvie Matelli, elle était en ligne de Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Sheikh Thiero. C'était Linas Rimkous qui était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide, dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Take care.
Mr. Bay on the beat.
Tu dis que tu travailles tard, fais des salades. Adieu, le, le. Tout le temps tu m'évites, tu trouves des parades. Adieu, le, le. On m'a dit qu'avec les petits, tu te balades. De toutes les façons, je vais t'attendre all night long. All night long. Madame, je m'en apprête, toi t'es pas.